Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Nous retrouvons l'histoire de Psyché. Nous allons, dans ce deuxième temps, essayer d'avoir une lecture beaucoup plus intérieure du parcours de cette héroïne mythologique, à commencer par le début, c'est-à-dire la description de Psyché, qui est, dans ce mythe, une femme très belle et qui, pourtant, ne trouve pas à se marier. Il y a donc un décalage, un problème, un manque, peut-être une faille. Docteur Dominique Desmichel, vous allez tenter de nous éclairer là-dessus. Comment une femme très belle peut justement être à ce point malheureuse et ne pas trouver sa place dans cette société où tout est fait justement pour les gens beaux. On sait bien que les gens beaux réussissent en moyenne certainement beaucoup mieux que les gens qui ont un physique plus banal.
Oui, c'est malheureusement vrai et connu et reconnu. Voilà. Puis je crois que même on sait très très bien que pour réussir dans n'importe quelle vie professionnelle, le fait d'avoir une plastique avantageuse, ça aide.
C'est un petit coup de pouce. Hein,
ouais, voilà, c'est un petit coup de
pouce. Ça fait pas tout, évidemment. Hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire.
Alors, votre question, c'est une question difficile. Il n'est pas simple d'y répondre. J'aurais envie de dire en préalable que ce qui est important de penser, c'est que le compte, il n'est pas une recette pour une agence matrimoniale. On n'est pas là pour ça. On est là pour raconter ce qui se joue à l'intérieur de la psyché. C'est-à-dire du côté de l'énigme de ce qui va présider à la relation amoureuse entre un homme et une femme, de ce qui va présider à la relation amoureuse entre une femme et un homme, de ce qui va présider à l'harmonie à l'intérieur de soi entre le masculin et le féminin. Donc là, on n'est pas juste pour un bon petit moment sur la couette avec une fille absolument hyper désirable, on est là pour s'interroger sur qu'est-ce qui construit au fond la possibilité d'avoir à l'intérieur de soi-même, quand on est un homme, un féminin qui a sa place, pas trop parce qu'autrement on va devenir un pleurnichard, mais pas suffisamment parce que sinon on va devenir froid et indifférent à tout, avoir une virilité qui tienne, c'est-à-dire on sait dire ce qui est important pour soi, mais on sait le dire avec réserve et avec modulation. Quand on est une femme, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est un féminin qui tienne, une féminité qui tienne au fond, mais qu'on ait aussi une polarité qui permet de s'affirmer, de dire ce qu'on veut, de lâcher sur, ne pas lâcher sur les choses qui sont importantes, etc. Dans cette histoire de Eros et Psyché, il y a lieu vraiment de le penser comme la rencontre entre deux personnes, mais aussi au fond entre deux instances à l'intérieur. Donc, comment on peut imaginer ? On peut penser que Psyché, c'est d'abord une plastique merveilleuse, un peu fabuleuse, probablement un petit peu éthérée, on pourrait dire un peu psychique, voilà, hein, puisqu'elle s'appelle Psyché, sans un corps vrai, c'est-à-dire un corps qui vienne parler à la globalité de l'autre et qui ne soit pas juste une sorte de bel objet susceptible de nourrir les fantasmes des mâles. Donc au fond, une beauté à vous couper le souffle, mais qui en quelque sorte, alors je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu contradictoire, mais qui ne serait pas vraiment tout à fait sexy parce qu'elle serait un petit peu éloignée, parce qu'elle serait au-dessus de l'eau des mortels. Et finalement, si vous avez une sorte de personnage qui, à l'intérieur de, dans votre perception, vous paraît totalement extérieur à ce qui est abordable pour vous-même, eh bien alors, ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'elle est souvent représentée sous la forme d'un papillon, hein, dans les gravures. Et ce papillon, ça dit qu'elle a quelque chose qui est aussi fragile qu'un papillon. Donc, elle est souvent représentée par ses ailes de papillon.
Alors, cette beauté... sinon surhumaine, en tout cas, peut-être surnaturelle en tout cas, elle est très bien décrite dans le mythe puisqu'elle est comparée à la beauté d'une déesse. On la compare, voilà. On la compare à Aphrodite, donc voilà. À quelque chose de, bien sûr, de surhumain.
Voilà. C'est pour ça qu'on peut penser que ce qui lui manquerait, vous voyez, ça serait quelque chose de l'ordre des affects, des sentiments, des émotions, c'est-à-dire de quelque chose dont on sent que c'est vraiment relié à elle, vous voyez ? C'est-à-dire, il y aurait quelque chose qui serait extrêmement impressionnant dans ce que voient les yeux, mais dans ce que voit le cœur chez les hommes, il y aurait quelque chose qui serait perçu comme manquant. Et donc, elle serait en quelque sorte condamnée à faire l'admiration de tous, mais sans pouvoir, au fond, susciter une vraie relation amoureuse. Elle pourrait être que l'âme, hein, ce qui anime un amant, mais elle ne pourrait pas faire couple. Donc, elle serait une sorte de déesse, comme vous l'avez dit, au fond avant l'heure. Hein, on a vu lors de l'émission précédente que finalement, elle va terminer comme déesse. Mais il n'y a pas lieu de se dire que du coup, elle perd sa condition humaine. Mais c'est qu'en accédant finalement à ce statut d'archétype, on pourrait dire, hein, l'archétype de l'amour avec Eros et l'archétype de l'amour aussi avec Psyché, et l'archétype du couple avec Eros et Psyché, il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui peut se construire.
Oui, à travers ce démarrage du mythe, on voit bien dans un autre type de lecture, là nous sommes dans une lecture psychanalytique, mais dans une lecture beaucoup plus spirituelle, on imagine bien Psyché déjà un pied dans le ciel, un pied sur terre et un pied au ciel, effectivement. Mais restons dans notre lecture psychanalytique du conte et voyons justement comment Psyché va parvenir à cet état de déesse qui termine notre mythe. Elle va passer par de nombreuses épreuves pour se réaliser.
Voilà. Je pense que c'est bien important. On a vu toute la dernière fois, lors de la dernière émission, l'histoire concrète. On va essayer de la reprendre en essayant maintenant de se dire qu'est-ce que ça signifie au fond pour l'âme humaine. On a vu qu'il y avait eu d'abord ce premier temps qui était un peu une espèce de lune de miel, c'était tout à fait paradisiaque, aphrodisiaque, en remettant encore le mot aphros, hein, aphros de Aphrodite. Hein. Aphros en grec c'est l'écume, hein, parce que c'est la naissance d'Aphrodite, c'est ça, elle est née de l'écume des génitoires d'Ouranos qui tombe sur Terre. Voilà, et on est donc... Comme je prendrai comme hypothèse, au fond, que Psyché, elle va vivre cet amour que dans la nuit. Et qu'il faut qu'elle sorte dans la nuit, de la nuit. C'est-à-dire, au fond, que ce que raconte ce mythe, ou au fond ce conte, c'est une issue pour sortir du monde de la connaissance et retourner dans une vie de connaissance. Donc, on est dans ce temps qui est hors du temps. On est dans ce temps qui est hors du jour, puisque ça se passe la nuit. Et là, il n'y a comme seule possibilité de sortir de la nuit, de revenir sur sa propre histoire. Et ça, vous savez, il y a ce proverbe qui dit « quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». C'est-à-dire, c'est dans le retravail de sa propre histoire qu'on arrive à comprendre pourquoi ça bloque ici, pourquoi ça bloque là, pourquoi on ne sait pas où on va, pourquoi on s'interroge. Donc, Psyché se rappelle de ses sœurs, elles qui ont entre guillemets réussi leur vie matrimoniale, et elle imagine probablement que ces retrouvailles vont pouvoir la sortir de cette impasse relationnelle avec ce bel inconnu. C'est-à-dire, j'aurais envie de dire, c'est pas juste par nostalgie, tiens, je vais passer un petit week-end chez les parents ou chez mes sœurs et beaux-frères le week-end prochain, mais c'est, il faut que je revienne parce que, pour que quelque chose s'accomplisse, il faut que je retourne dans le passé, que je retourne voir mon histoire.
Alors ça, c'est la deuxième blessure de Psyché. La première, donc, elle n'arrive pas à trouver un époux. Elle tombe sur Eros, qui l'enlève dans son palais. Et malgré cette lune de miel dont vous parlez, ce n'est pas encore suffisant. Non. Il faut qu'elle creuse encore. Et elle va creuser du côté de son origine, de là où elle vient.
Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment penser que les deux sœurs, quand elles lui disent « Mais tu le connais pas, ton mari, le devin a dit que c'était un monstre », elles sont dans leur place. Au niveau de la morale, on va dire, elles sont jalouses. Mais au niveau psychique, on a envie de se dire « Mais elles posent les bonnes questions, au fond. Hein? » Puisque « Mais pourquoi tu te maries dans la nuit? Pourquoi vous faites l'amour simplement dans la nuit psychique, bien évidemment, ou dans la nuit relationnelle ?» Donc, elles posent les bonnes questions. Voilà. Et que dans ce passage-là, au fond, ce que nous raconte le mythe, c'est qu'il y a lieu d'aller découvrir ces ombres personnelles. Et certes, le palais est merveilleux, mais son conjoint est tout de même étrange et il reste dans l'ombre. Il reste dans l'ombre. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas comme ça qu'on forme un couple, en tout cas. Hein.
Alors, cette ombre, c'est bien sûr, dans notre lecture, une ombre, l'ombre de Psyché qu'elle projette elle-même.
Alors, reprenons le point de départ. Le point de départ, c'est que le devin, il a dit qu'il va y avoir un monstre qui va arriver. C'est donc bien un monstre. On va se dire que le casting a été bien fait, c'est-à-dire que les acteurs, ils ont été bien choisis. Et ce monstre qui arrive, c'est une bête sauvage, c'est une pulsion. Il a ses serviteurs invisibles, mais toujours au service de l'invité. Vous vous rappelez peut-être le film La Belle et la Bête, et quand la Belle arrive dans ce château aussi merveilleux, tout s'allume, les serviteurs sont là, la table est remplie des mets les plus délicieux. Donc, je reprends ce que je disais l'autre fois, c'est-à-dire pour moi, le monstre, c'est celui qui va montrer quelque chose qui n'est pas montrable. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'ombre, du nombre chez Psyché, et c'est ça qui va se dévoiler. Donc, dans une lecture intérieure, ce monstre de la nuit, c'est finalement la figure cachée, la figure trop escarpée, quelque chose qui n'est pas accessible pour Psyché. Et si l'on prend Eros pour ce qu'il est avant tout, c'est-à-dire le désir d'amour et le désir du corps, c'est bien cela qui semble inaccessible pour Psyché. Donc, vous voyez, à ce moment-là, on se dit que si il y a quelque chose qui est extrêmement désirable chez Psyché, plastiquement, qu'est-ce qui lui manque ? Il lui manque le sentiment, c'est-à-dire l'éros. Donc, elle va à la rencontre, à la découverte de son éros intérieur. Et au départ, elle ne peut pas le rencontrer comme ça, en sortant du cinéma ou en sortant de chez le coiffeur. Elle le rencontre dans sa nuit. Hein, voilà. Donc, Eros, pour moi, il est bien à ce moment-là, il a été mis dans l'ombre de Psyché. Eros, il incarne l'ombre de Psyché, et pour des raisons que le mythe ne nous raconte guère, elle a refoulé dans son ombre personnelle cette figure si importante de l'amour. Donc, je crois que l'ombre de Psyché contient le désir d'amour et que finalement, il y a ce corps-là qui reste, qui est une grande beauté, mais qui n'a pas accès à son ombre. C'est pour ça que le monstre qui surgit dans la nuit de Psyché, c'est bien un monstre. Et qu'est-ce qu'il va lui montrer ? Il va lui montrer l'inaccessible. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'entendre que Psyché, elle fait un vrai parcours intérieur et qu'au fond, grâce à ses sœurs, vraiment grâce à ses sœurs, qui lui disent « Non, non, mais... il faut que tu en saches un tout petit peu plus. » En fait, elle commence à éclairer sa nuit. Et évidemment, elle éclaire sa nuit. Il va y avoir quelque chose d'une rencontre qui va être une rencontre difficile et douloureuse. Parce que pour chacun de nous, la rencontre avec nos ombres, c'est quelque chose qui est difficile.
Et on entend bien, docteur Dominique de Michel, que ce désir d'amour qui est en elle, elle ne peut pas le résoudre toute seule.
Oui. Elle ne peut pas tout à fait le résoudre toute seule. D'ailleurs, quand l'accès, finalement, à notre ombre est verrouillé, c'est que l'ombre a été bétonnée. Et si elle a été bétonnée, c'est parce qu'à l'intérieur, qu'il y a un monstre. Et ici, je crois que le monstre refoulé de Psyché, c'est Eros. Et qu'en effet, elle ne va pas pouvoir s'en sortir toute seule. Elle va devoir passer par toutes ces épreuves, dont celle que vous avez rappelée la dernière fois, avec en particulier la dernière, qui est la descente aux enfers.
De cette ombre, nous allons donc passer à la lumière. Psyché va faire donc la lumière sur sa nuit intérieure et découvrir le vrai visage de son amour.
Je crois que ce qui est vraiment intéressant dans ce mythe, c'est que si on prend l'idée que Eros, c'est l'ombre de Psyché, hein, c'est ça l'idée importante. C'est-à-dire, elle est dans cette beauté plastique, mais il lui manque la fonction sentiment, hein, la fonction amour. Alors, le mythe nous dit, il n'y a pas lieu d'avoir peur nécessairement de son ombre. Il est même probablement important, si ce n'est indispensable, d'aller à la rencontre de cette part d'ombre, parce qu'elle recèle des territoires de nous-mêmes que nous avons mis de côté. Et la dangerosité de cette rencontre, elle est bien mise en scène par le fait que Psyché est attachée à son rocher. C'est-à-dire, pour qu'elle se sorte de ça, il y a une mise en scène. Et cette mise en scène dit qu'elle est attachée à cet objet-là et qu'au fond, il faut qu'elle attende d'être dévorée par ce monstre. Hein.
Et pourtant, voir mettre de la lumière sur son ombre, eh bien, ça lui est presque fatal.
Oui,
c'est étonnant, ça.
Oui, ça lui est fatal dans le sens... il va y avoir une rupture, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va évoluer après. Donc, Psyché, au fond, dans ce palais et retournant chez ses sœurs, voir ses sœurs, elle se dit « oui, il faut que j'aille voir ». Donc, elle part à la découverte de son ombre, elle l'éclaire avec la lampe à huile. Nous, psychanalystes, on dirait « c'est la lampe à huile du soi », c'est-à-dire il y a une dynamique à l'intérieur d'elle-même qui lui dit « allez, va voir ». Et c'est vrai que là, il y a un drame, comme vous le dites, c'est-à-dire la brûlure de l'éveil est trop forte, et elle doit retourner travailler son histoire personnelle. Après la figure de ses sœurs, qui l'ont aidée, voilà, c'est comme dans l'histoire de Ève. Ève, ce n'est pas celle qui a fauté, c'est celle qui a permis l'accès à la connaissance. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture du mythe biblique dans la Genèse. Là, c'est la même chose. Elle a travaillé la rivalité avec ses sœurs, qui, elles, ont réussi quelque chose, mais qui viennent lui dire... Il faut que tu ailles voir du côté de cette ombre. Et là, il va falloir qu'elle se confronte avec l'imago de sa mère intérieure, ici incarnée par Aphrodite.
D'un point de vue psychanalytique, nous avons vu que Psyché fait la lumière sur sa nuit intérieure.
Oui.
Comment cela se fait-il que ça soit négatif pour elle ? Alors que c'est le travail, justement, de la psychanalyse de faire la lumière sur sa nuit intérieure. Et là, pourtant, c'est problématique.
C'est problématique, mais ce n'est pas négatif. Le travail avec... Alors, sur le plan psychanalytique, on pourrait dire l'ombre, pour le dire simplement, c'est deux choses. La première chose, c'est toutes les parties, enfin, si on le met en termes de personnages, dans notre ombre, il y a tous les personnages à l'intérieur de nous-mêmes qu'on n'aime pas. Voilà. Alors, je sais pas, quand on est en colère, quand on n'est pas content, quand on a été blessé, tout ça, on a mis ça dans l'ombre. Mais c'est aussi tous les personnages qui, à l'intérieur de nous-mêmes, n'ont pas eu la chance, dans notre vie, de se développer. Voilà. Vous avez peut-être toujours rêvé d'être jardinier ou architecte ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, vous avez votre métier et vous avez au fond sacrifié des choses. Ce personnage d'architecte ou de jardinier, vous l'avez mis dans votre ombre. Et puis, un jour, ça va peut-être vous rattraper. Et puis, vous allez vous découvrir que finalement, vous habitez dans un appartement, que ce n'est plus possible. Vous allez vendre l'appartement, habiter à la campagne. Et puis, dès que va arriver le vendredi soir, vous serez dans votre jardin. Et là, vous serez le plus heureux des hommes. Vous aurez mis... Le jardinier était dans l'ombre et là, il va réapparaître. Donc, ça, c'est une ombre vivante. De cette ombre sombre, on pourrait dire que Psyché, elle y a mis quoi ? Elle y a mis l'amour. Et dans cette rencontre-là, il y a en effet, avec nos ombres négatives, il y a quelque chose qui est difficile. Hein, parce qu'on n'a jamais envie d'aller voir les personnages à l'intérieur de nous-mêmes que nous n'aimons pas, que nous jugeons négativement. Mais en général, cette confrontation à ces personnages nous permet d'être plus tranquilles. Hein. Par exemple, je vais donner peut-être des exemples, j'essaie de chercher là, mais imaginons par exemple qu'il y ait un côté enfant blessé à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on ne supporte absolument pas que quelqu'un nous fasse une remarque parce qu'on s'est trompé. Voilà, et donc à chaque fois qu'on s'est trompé, ça va nous mettre dans un état pas possible, que ce soit de la colère ou de la déprime ou autre chose. Pourquoi ? Parce que dans notre ombre, on a mis ce personnage-là blessé et qu'il n'a pas accès à notre conscience. Si on comprend que de temps en temps, on se met en colère parce qu'il y a une partie enfant blessée à l'intérieur de nous-mêmes, on se réconcilie et au fond, finalement, quand quelqu'un va nous faire une remarque, on va pouvoir l'accepter tranquillement parce qu'on a eu un bon contact avec notre ombre. Et puis dire à l'autre, bah oui, en effet, je crois que c'était pas juste ce que j'ai dit, je me suis trompé. Voilà. Et donc, dans la vie, ça va être beaucoup plus tranquille. Hein, voilà. Donc, cette bonne relation avec nos ombres, on n'en a jamais fini, parce qu'il en reste toujours des ombres. Hein, à partir du moment où il y a un objet, il y a la lumière, il y a une ombre. Cette relation plus juste et plus tranquille avec les ombres, nos ombres intérieures, ça nous change vraiment la vie.
En tout cas, pour Psyché, docteur Dominique Demichel, cette confrontation avec sa part d'ombre se passe plutôt mal.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on pourrait se dire pourquoi, au fond, il y a un interdit du voir, hein, du voir qui est posé par Eros. Pourquoi Eros lui dit « tu n'as pas le droit de me voir ». Alors, on peut se rappeler les histoires mythologiques qu'on a évoquées la dernière fois, à savoir Sémélé qui est enceinte de Dionysos, qui demande à voir Dieu, et puis le dieu Zeus, et puis elle en meurt consumée. Mais ici, il n'y a rien de tel, parce qu'en fait, quand elle découvre le dieu, elle ne découvre pas quelque chose qui l'aveugle, ou qui la foudroie, ou qui la fait, qui la réduit en cendres d'un seul coup. Qu'est-ce qu'elle découvre ? Elle découvre un corps aimant. Elle découvre celle de son mari amant de la nuit. Et au fond, qu'est-ce qui est intéressant de voir dedans, c'est que la transgression de l'interdit fait disparaître l'amant. C'est-à-dire, voilà, t'as pas le droit de me voir, tu me vois, je disparais. C'est quand même étrange, ça. Hein ? La nuit, au fond, on pourrait dire, elle était porteuse de leur proximité. Ni l'un ni l'autre dans l'histoire n'implorait l'aube qui pourtant les séparait. Hein. Ils étaient bien contents tous les deux au fond de vivre cette nuit, puis après de se séparer. Donc je crois que cette espèce de complicité bienveillante, contenante, sécurisante de la nuit soutenait au fond le mélange ici des corps dans le lit conjugal. Et il y a lieu de se dire qu'elle devait être exigible pour préserver l'épreuve, il me semble, des corps qui se joignent, et peut-être, au fond, assurer la primauté des sentiments. Alors, je m'explique. Ça veut dire quoi ? Au fond, dans le noir, la sexualité relationnelle, elle contient, elle nourrit, et elle porte plus le couple que la réalité charnelle. Pourquoi ? Parce que le regard désir est exclu, au fond. C'est-à-dire, ce qui... Alors, évidemment, vous me direz, il y a le toucher. Mais le voir qui intervient quand même beaucoup dans la tension érotique, dans le désir, voilà, il est exclu. Donc au fond, ce qui va les réunir sous la couette dans leur nuit amoureuse, ça va être les sentiments. Voilà, que les sentiments. Hein. Alors il y a le corps, évidemment, il y a quelque chose qui s'incarne fondamentalement. Voilà, donc je crois que c'est intéressant de le penser, c'est-à-dire, c'est comme si ce qui avait présidé au côté fascinant de Psyché, c'était le regard que les autres portaient sur elle. Là, dans cette nuit-là, ben justement, il n'y a pas le regard. Il n'y a pas le regard. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de le voir comme ça. Mais qu'en même temps, s'en tenir à l'absence de regard, ça serait exclure au fond ce qui a posé le problème au début, à savoir le regard de ces hommes, mais qui sont des regards d'admiration et pas des regards amoureux. On supprime ça, mais ça ne peut pas rester là. Voilà, le conte nous dit ou le mythe nous dit non, c'est pas possible, on peut pas rester dans un couple en étant que dans une sorte de nuit perpétuelle. Hein. D'autant que cette nuit, elle pourrait très bien être une nuit utérine, c'est-à-dire où ces deux sont encore comme des enfants dans l'Éden et encore dans une sorte de grand ventre maternel, voilà, d'une nuit utérine.
Oui, parce que la nuit, c'est l'espace féminin.
Oui, oui, je crois que oui, il y a quelque chose là qui est tout à fait important. La nuit, c'est en effet un espace féminin. Dans la plupart des langues, d'ailleurs, le mot est féminin. Il y a beaucoup de mots, d'ailleurs, où ça commence par la lettre N, dans Nyx, qui est la déesse grecque de la nuit. La nuit et le jour, Nacht, et puis Tag en allemand, Night, Day en anglais, Nox, Dies, voilà, Nis, Esmera aussi. Donc je crois qu'il y a vraiment une sorte de spécificité féminine de la nuit, dans cette dimension au fond un peu régressive, utérine, créatrice, gestante. Et je crois qu'on peut dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, la nuit finalement, elle porte nos désirs, elle porte nos ombres, nos recoins, nos mystères, alors que le jour, par opposition, il serait en quelque sorte viril, masculin, carré, hiérarchisé, actif, ordonné. Donc je crois que c'est souvent au cœur de la nuit que surgit, par le côté, par la bande, une forme de créativité, là où on ne s'y attend pas. Et que c'est comme si, au fond, là où on voyait le mieux notre intériorité, c'était quand on avait les yeux fermés ou quand on était au cœur de la nuit. Donc je crois que la vérité, au fond, de la nuit, c'est une vérité intérieure et que cette immanence, cette dimension horizontale de l'existence, elle disparaît en quelque sorte et que la nuit nous invite à une verticalité, à une transcendance, je crois. Et puis, on peut se rappeler que voilà, au moment du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, eh bien, c'était que la nuit. Et pendant très, 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 très longtemps, il y a eu une espèce de soupe dans laquelle il n'y avait pas suffisamment d'espace pour qu'on y voit quelque chose. Hein. Puis c'est simplement à partir du moment où il y a eu une sorte d'expansion qu'il va y avoir l'apparition de la lumière et donc la possibilité d'y voir quelque chose.
Docteur Dominique Desmichel, le mythe ne s'arrête pas sur cet échec de Psyché, bien au contraire, puisqu'il se poursuit. Il se poursuit dans une autre forme de nuit où Psyché va aller jusqu'à boire de l'eau tirée du Styx, du fleuve des enfers, et retomber dans une autre nuit beaucoup plus profonde, de laquelle va l'attirer Eros. Voilà. Pour terminer le mythe. Voilà. C'est encore une autre forme de nuit, une autre forme de...
Je pense que
l'intériorité.
Je pense que dans beaucoup de mythes, hein, le passage par les enfers est comme une sorte de passage obligé. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le mythe chrétien aussi, le Christ, on dit il est descendu aux enfers. Hein. Donc c'est comme ça veut bien dire il est passé par la mort. Hein. Voilà. Ici on est dans une mort psychique. Probablement pour le Christ, il s'agit d'une mort. C'est pas trop dans mes domaines de compétences après, mais d'une mort réelle, voilà, concrète, charnelle. Et puis ensuite, il y a quelque chose d'une renaissance. On voit ça pour Ulysse, par exemple. Hein. Ulysse, il va dans l'Odyssée, il va redescendre aux enfers, il va rencontrer les héros comme Achille, par exemple. Voilà. Donc dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire, si on revient sur le plan psychique, à une dimension régressive. C'est-à-dire, une dimension régressive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on revient en arrière, il y a une sorte de régression temporelle, c'est on revient en arrière, mais il y a une sorte de régression psychique, c'est-à-dire on va rejoindre les couches les plus enfantines de nous-mêmes, c'est-à-dire on va rejoindre, comme souvent la psyché ou la psychologie le dit, hein, notre enfant intérieur, c'est-à-dire à la fois celui qui est le plus susceptible d'être créatif, et en même temps, celui qui est le plus susceptible d'être vulnérable. Hein. Vulnus, en latin, c'est la blessure. Donc, le vulnérable, c'est celui qui peut être blessé, au fond.
Et ce n'est qu'au terme de cette longue démarche que Psyché va trouver son équilibre, on peut dire, pour terminer notre mythe.
Voilà, je crois, au fond, qu'on pourrait faire exactement la même symétrique. C'est-à-dire, Eros, lui, il est dans une position de toute puissance, hein. Il arrive, il prend son carquois, ses flèches, son arc.
C'est plus facile, c'est un dieu, lui.
Voilà,
hein,
voilà. C'est un dieu. C'est un dieu, mais en même temps, il envoie toutes ses flèches, il décide, il n'y a pas d'altérité, au fond. Tandis que là, il va rencontrer Psyché. Psyché va lui dire, ok, d'accord, pour les nuits, les noces nocturnes, les noces matricielles. Et puis à un moment, elle va transgresser. Hein. C'est-à-dire, elle ne va pas suivre la toute-puissance imposée d'Eros. Elle va dire, non, moi, je ne suis pas d'accord pour ce type de couple. J'ai envie de voir. Hein. Ses sœurs intérieures lui disent, il faut que tu vois ce côté monstrueux-là. Et au fond, à partir de là, quelque chose va naître. Donc, c'est pour ça que je crois que Psyché et Eros ne pouvaient auparavant se voir, entre guillemets, que dans la nuit. Ils étaient dans une sorte de corps à corps aveugle, mais ouvert à toutes les autres sensations et au fond, au sentiment. Et je crois que chacun va parcourir un vrai chemin d'individuation avant que la lumière éclaire leur lien réciproque. Et puis, on voit bien qu'ici, probablement, ils ont tous les deux des comptes à régler. On reverra ça avec d'autres mythes, et on verra ça surtout dans le parallèle avec Blanche-Neige. Ils ont des comptes à régler avec une figure matricielle, comme s'ils étaient encore dans leur ventre. Et Rose qui, lui, il obéit à sa mère comme ça, qui claque du doigt et qui lui dit « Bon, tiens, tu envoies quelques petites flèches ici, par là, et c'est moi qui décide. » Et Psyché qui, elle, est prise dans cette espèce de corps esthétique qui l'empêche d'avoir une relation affective vraie.
Docteur Dominique Desmichel, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour poursuivre, alors cette fois-ci, autour du mythe de la Genèse.
Merci Simon. Thank you. Thank you.